au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mercredi 18 mars, jour de budget, dépôt du 8e et dernier budget du ministre Éric Girard de la Coalition Avenir Québec. On va faire le bilan de tout ça dans l'émission là, avec Pierre Paquette. On va en reparler aussi avec Pierre Jubainville aux infos tout à l'heure. Avec nous à l'émission aussi, Marie-Hélène Hotte et Luc Gagnon, qui représentent deux entreprises de Joliette qui viennent de recevoir d'importantes contributions de développement économique Canada. Aussi, le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, avec qui sera question d'Hydro-Joliette. Mais tout d'abord, le service de police de l'Assomption Saint-Sulpice multiplie ses efforts de sensibilisation sur des enjeux touchant les jeunes du niveau secondaire. Et le service de police tient ces jours-ci la 18e édition de son programme de prévention qui s'appelle « Mieux vivre en tête » avec la contribution de nombreux partenaires, comme l'explique Sophie Légaré, des relations publiques de la police de l'Assomption Saint-Sulpice avec Régent Turgeon, avec qui, Régent Turgeon qui s'est entretenu justement avec Sophie Légaré.
À Jean-Claude déjà une 18e édition pour le programme de prévention « Mieux vivre en tête ». Peut-être nous rafraîchir la mémoire, nous priser. C'est quoi le programme?
Alors, c'est un programme de prévention des toxicomanies et promotion des saines habitudes de vie qui en est à sa 18e édition. Donc, à chaque année, on rencontre les élèves de secondaire 1 des écoles du secteur L'Assomption. Et cette année, on a reçu là, pour l'école polyvalente Lachigan de Saint-Roch, Lachigan. Donc, on reçoit les élèves et on leur monte une espèce de salon des saines habitudes de vie dans lesquels ils vont visiter 10 kiosques avec des intervenants qui vont être dynamiques, qui vont user de techniques d'impact pour tenter de leur donner des trucs pour être capable de bien s'affirmer.
Donc, on doit comprendre que c'est un programme qui s'adresse à des jeunes, notamment ceux du secondaire, donc un groupe d'âge peut-être plus ciblé que d'autres, là.
Oui, effectivement. On a choisi, nous, le secondaire 1, donc des élèves là, de 12, 13, 14 ans, parce que c'est à ce moment-là que les jeunes souvent vont être confrontés à une première expérience qui pourra être négative pour eux. Qu'on parle de tabagisme, de vapotage, de mauvaise fréquentation. Alors, nous, ce qu'on souhaite avec nos kiosques, c'est vraiment d'offrir aux jeunes des alternatives. Comment savoir répondre? Comment avoir suffisamment confiance en eux pour être capable de refuser les mauvaises influences?
C'est une façon de les responsabiliser à quelque part face à des enjeux auxquels ils sont peut-être pas familiers, auxquels ils sont peut-être même confrontés, là.
Oui, bien, on souhaite contribuer, dans le fond, au bien-être des jeunes puis justement les aider à se bâtir en tant qu'être humain.
Qu'on vient chercher ici, on peut donc le mettre en pratique. Vous avez eu par le passé des témoignages des participants, puis de participants peut-être à venir aussi, là.
Oui, on a un sondage qui date là, de quelques années, mais dans lequel les jeunes nous disaient qu'en fait, un jeune sur quatre nous disait avoir eu à utiliser un des trucs qu'on leur avait donné à mieux vivre en tête. Donc, pour nous, c'est déjà très satisfaisant. Les trois autres, est-ce qu'ils ont été confrontés à des situations? On imagine que oui. Est-ce qu'ils ont oublié nos trucs? Mais c'est quelque chose qu'on aimerait refaire de cette évaluation-là.
Agent Légaré, il y a un incident qui a beaucoup fait jaser dans la région ces derniers temps. Des élèves qui ont agressé le surveillant d'un dépanneur à Repentigny. Ça a fait le tour de la région. Le phénomène, qu'on pourrait dire, de la violence gratuite. Est-ce qu'il y a des mises en garde qui s'imposent, qui doivent être faites aux jeunes, justement, dans un contexte de formation comme aujourd'hui?
Je connais pas exactement tout le dossier de Repentigny, mais ce qu'on souhaite, c'est que, dans le fond, les jeunes, c'est qu'ils se trouvent des bons plans. Que ce soit de s'occuper en faisant du sport sur l'heure du midi, en ayant des bonnes fréquentations, en ayant des saines habitudes, un peu ce qu'on leur dit justement ici à Mieux vivre en tête, c'est qu'on souhaite que ça leur crée de bonnes habitudes et que ça évite justement les débordements puis les situations violentes comme ça.
Mieux vivre en tête, c'est un programme de 3 jours. Il va passer beaucoup de jeunes ici, là.
On reçoit 1000 jeunes chaque année environ. Et cette année, là, tout ça se déroule au cégep de la Naudière à l'Assomption. Et c'est vraiment un bel événement. On est content de le ramener à chaque année.
On sent l'enthousiasme des jeunes parce que ils se créent des beaux liens ici là, avec le service de police.
Mais ça permet un beau rapprochement avec les jeunes au niveau du service de police, effectivement, mais avec tous les partenaires qu'on a ici avec nous, que ce soit le Néo qui vient parler de transphobie, homophobie, que ce soit Habitat Jeunesse qui est avec nous pour la première fois cette année pour parler santé mentale à nos jeunes. On a également le Carrefour Jeunesse Emploi qui est avec nous. On a 10 partenaires très impliqués dans la communauté puis qui donnent de leur temps, dans le fond, toute la semaine avec nous pour les jeunes.
On peut penser qu'il y aura une évaluation qui sera encore faite cette année là, de cette 18e édition.
Oui, on espère être capable de le faire, d'avoir encore évidemment des bons résultats parce que ce qui fait le succès probablement de Mieux vivre en tête, c'est qu'on s'ajuste aux jeunes. Quand on a débuté la première année, on parlait pas du tout de réseaux sociaux. Et là, on en parle un peu dans tous les kiosques parce que c'est la réalité de nos jeunes.
Est-ce qu'on peut dire que la réalité des jeunes aujourd'hui est difficile à vivre ou bien on s'acclimate?
Ben, c'est leur réalité à eux. Donc, nous, on s'adapte, on tente de les comprendre puis d'amener justement un peu des solutions pour leur faciliter les choses.
Voilà, c'était Sophie Légaré. Elle est aux relations publiques au service de police de l'Assomption Saint-Sulpice et c'est Régent Turgeon qui a eu l'occasion de s'entretenir avec elle. Il est 16h12. Dans un moment, le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, avec qui il sera question d'Hydro-Joliette.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Joliette, dépanneur Jean-Louis, dépanneur Filgo, dépanneur voisin Polo dans le Carrefour du Moulin, dépanneur Proxy Extra Arnois, Tabagie 636, dépanneur Michel Caram, dépanneur Nico, dépanneur Couchetard, dépanneur Marie, épicerie Forêt, dépanneur voisin Joliette, dépanneur Super Sagami Pétro-Canada et pharmacie Nancy Gaudreau. À Saint-Charles-Borromée, dépanneur Couchetard, dépanneur Rapido, dépanneur Bonnie-Soir-Chel, dépanneur Saint-Charles, IGA Marché C&C Le Thor. À Saint-Pierre, dépanneur J&G, à Notre-Dame-des-Prairies, dépanneur 350 voisin, dépanneur des Prairies, marché Philippe voisin. Et à Saint-Paul-de-Joliette, dépanneur Bonissoir, dépanneur Proxy Extra, dépanneur voisin. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustré, traitement aquapel longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Au Québec, ce n'est pas avec une publicité qu'on va sauver le français. Non.
C'est avec moi, Léo, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et vous, en train d'écouter la radio en français. Continuez comme ça, là. Un message de Léo
et du gouvernement du Québec.
Bonjour, c'est Kim de Joliette-Nissan. Chez nous, chaque membre de notre équipe est totalement dédié à vous offrir la meilleure expérience possible et un service personnalisé. Pendant l'événement Maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Venez nous rencontrer au 800 boulevard Basse de Roque à Joliette, là où l'expertise rencontre la passion. Joliette-Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
L'échappée sur le pouce, c'est ta solution de prêt-à-manger. Savoureux et abordable, on t'offre le meilleur des deux mondes. Un repas à ton goût et une économie de temps. Repas fraîcheur, prêt à chauffer ou à congeler, l'échappée sur le pouce cuisine pour toi avec des ingrédients locaux et frais. Tous les détails à l'échappeesurlepouce.com. CFNG.
Lanaudière PM.
Affaires municipales.
16h15, le Québec a connu une des pires tempêtes de vent. Ça nous a surpris, ça a pris vraiment la population par surprise. En fait, il y a 320 000 citoyens au Québec qui ont été privés d'électricité cette semaine. La ville de Joliette n'a pas été épargnée, mais comme c'est souvent le cas, les clients sont pas restés dans le noir très longtemps, et ce, grâce à Hydro-Joliette. Mais il y a un quartier qui a été plus touché, c'est le Carrefour des Moulins. Carrefour du Moulin, qui, lui, est relié au réseau d'Hydro-Québec. Mais pour ce qui est du reste de la ville de Joliette, ou à peu près tout le reste, ben c'est Hydro-Joliette. Et pour en parler, le maire de Joliette est avec nous, Pierre-Luc Bellerose. Bonjour, Pierre-Luc Bellerose.
Bonjour, Claude, ça va bien?
Ça va bien. Et ça va bien du côté d'Hydro-Joliette aussi. Le réseau a tenu le coup. Il y a eu quelques petites pannes sectorielles, mais ça n'a pas duré très longtemps.
Non, c'était assez assez minime quand même, notamment au niveau du quartier Bel-Air. Là, il y a eu un peu plus de 200 clients touchés, mais c'est toujours sur une courte durée. Là, on parle de 30 minutes à 3 heures en moyenne. Là. Donc, sur plus de, je vous disais, de 9600 clients, on a peut-être eu là, autour de 300 clients d'affectés sur une courte durée. Là, un total de 362 abonnés. Là.
Bon, Pierre-Luc Bellerose, pour les gens qui sont pas de Joliette, qui sont à l'écoute présentement, comprennent pas vraiment de quoi on parle d'un réseau d'hydroélectricité local, Hydro-Joliette, mais pour, en fait, parce que c'est un réseau municipal, pour connaître un peu l'histoire de tout ça, il faut remonter à la nationalisation de l'électricité.
Oui, il faut même remonter encore plus, beaucoup plus loin que ça, dans les années 1888-89. C'est la date qu'il faut retenir parce que la ville exploite et entretient là, son propre réseau de distribution depuis ce moment-là, ce qui en fait d'ailleurs le doyen des distributeurs d'électricité au Québec. On a ce qu'on appelle l'AREC qui regroupe là, 10 villes, municipalités dont Joliette, Alma, Sherbrooke et Westmount notamment. Donc, on est effectivement le doyen. Et puis, un peu plus tard, il y a eu, oui, dans les années 60, en 1963, si ma mémoire est bonne, la nationalisation de 11 grandes entreprises et de 45 aussi autres plus petites. Puis, il y a eu un moment où Joliette aussi produisait avec sa propre centrale. Au fil du temps, on est devenu le distributeur là, de d'Hydro-Québec, mais ce qui fait en sorte qu'on a un meilleur entretien de notre réseau.
La nationalisation, ça veut dire la création d'une entité qui s'appelle Hydro-Québec et qui avale toutes les autres compagnies d'électricité au Québec. Et pourquoi Joliette est demeurée propriétaire de son propre réseau?
Ben ça a été des bons choix politiques. Je pense que la communauté tenait à garder son réseau. Puis aujourd'hui, ben on voit là, le bien fondé de cette démarche-là. Pourquoi? Parce que, comme vous le disiez, on a un meilleur entretien de notre réseau, ce qui fait en sorte qu'on n'a pratiquement jamais de panne ou de courte durée. Puis c'est aussi les retombées là, pour la ville comme telle, parce que si on se compare avec des villes là, comme l'Assomption en termes de population ou de Saint-Lin, qui ont des budgets peut-être de 30 ou 40 millions, Joliette a un budget de 100 millions de dollars. Et puis, au lieu d'être à 80 ou 90% dépendant de la taxe foncière, Joliette et dépendante autour de 40%. Donc, on voit les deux arguments qui font en sorte que c'était nécessaire, que c'était une bonne décision de conserver notre réseau initialement de distribution et maintenant de redistribution d'électricité.
Et il y a plusieurs personnes qui doivent se demander, qui sont de l'extérieur de Joliette, combien ça coûte Hydro-Joliette? Est-ce que pour le client, c'est à peu près le même tarif qu'Hydro-Québec, c'est ça?
C'est exactement le même tarif. Nous sommes assujettis là, aux règles de la Régie de l'énergie, donc il n'y a pas là, de coûts supplémentaires. Il n'y a que des bénéfices là, ultimement avec les deux arguments là, évoqués précédemment. Puis ce qui est triste, c'est qu'on a, oui, autour de 9600 clients avec Hydro-Joliette, mais sur notre territoire, vous l'avez dit, il y en a aussi dans certains quartiers, notamment dans le Carrefour du Moulin. On a autour de 3000 clients qui sont avec Hydro-Québec, qui ont beaucoup trop de pannes par rapport là, à ce qu'on a, nous, de notre côté, parce que la vérificatrice générale l'avait identifié dans son rapport dans les dernières années. On a un entretien là, qui est déficient, malheureusement, parce qu'on a pénurie de personnel ou d'investissement. Donc, nous, de notre côté, ce qu'il faut dire aussi, sur 86 kilomètres de réseau, il y en a 9 kilomètres qui sont enfouis au centre-ville, ce qui vient minimiser encore davantage aussi, au-delà là, de la qualité de l'entretien, mais des fils enfouis, on le sait, ça vient réduire pratiquement à néant là, les pannes aussi.
Mais justement, ayant un plus petit réseau et un réseau municipal, le réseau est entretenu par des employés de la ville qui vont tailler les arbres.
Tout à fait, on a notre propre siège social des Dos Joliettes là, avec ses employés. Donc, on a vraiment un Ido Joliette là qui est compétent avec des personnes là qui sont vraiment dévouées là, tout heure. Et je vous dirais que c'est une de nos fiertés locales. Puis on voit les résultats là qui bénéficient à nos citoyens. On a vraiment des résultats incroyables en termes de panne, en termes d'entretien, puis en termes de, je le répète, de bénéfices qui nous permet aussi de financer des projets, que ce soit culturels ou autres, qu'une ville habituellement ne serait pas en mesure d'appuyer aussi solidement. Là.
Ben justement, ces profits engendrés par Hydro Joliette, ils sont de quoi? À l'échelle de 1 million environ autour de ça?
Ah, c'est plus, on parle en termes, de, c'est quand même quelques millions là,
quelques millions.
Chaque année. Tout dépendant, oui, on peut parler autour de 4 à 5 millions là, assez facilement. On est aussi tributaire du marché de certaines modalités, mais bon an, mal an, on parle en termes de millions, ça fait la différence là pour boucler un budget, parce qu'on l'appelle, les villes et municipalités sont dans l'obligation, contrairement aux autres paliers du gouvernement, d'avoir des budgets équilibrés. Donc, ça vient faire toute la différence là pour le budget de la ville de Joliette.
On a parlé dans les dernières années, Pierre-Luc Bellerose, de projets d'expansion pour Hydro Joliette, c'est-à-dire justement d'aller chercher le secteur du carrefour du Moulin qui est desservi présentement par Hydro-Québec. Où on en est à ce niveau-là?
Ben effectivement, c'est mon rêve ultime là d'avoir là, l'entièreté des citoyens là sous la bannière des Dos Joliette pour avoir la même qualité de service, parce qu'on le voit actuellement, on a malheureusement deux catégories de citoyens. Donc il y avait eu des démarches d'entreprise avec le ministre Fitzgibbon à l'époque. Je pense qu'on était là dans des pourparlers fructueux. Malheureusement, le ministre a quitté, comme vous le savez, donc c'est resté un peu là figé dans le temps. On est toujours dans la démarche parce qu'on veut, je le répète, assurer la même qualité pour l'entièreté de nos citoyens. Puis l'autre élément important, on le sait que les gouvernements nous refilent de plus en plus de dossiers sans avoir nécessairement les enveloppes nécessaires. Puis on nous demande de trouver des nouvelles sources de revenus. Donc pour nous, ce serait un projet là, qui serait fort enthousiasmant, parce qu'on vient de donner une qualité de service, puis on se trouverait aussi avec des revenus supplémentaires qui viendraient là, encore une fois, nous aider dans notre budget puis dans la concrétisation de projets. Donc on poursuit les démarches, puis là on va être en année électorale, donc on va continuer à exercer de la pression. Puis je pense que ça va être une bonne chose aussi du côté de l'Hydro-Québec, parce qu'ils sont pas en mesure, là, visiblement, de répondre de façon satisfaisante, parce qu'on se retrouve toujours avec des citoyens là qui sont deux ou trois jours sans électricité. Puis étant donné que c'est un plus petit nombre de clients, ben ils sont souvent traités là, non pas en priorité, mais je vous dirais d'une façon qui selon nous, n'est pas méritée. Donc, si on était entièrement avec Hydro-Joliette, on aurait une qualité de service uniforme, puis on aurait des revenus là, dont les bénéfices retournent à la population.
Et j'imagine qu'il doit y avoir des municipalités, des citoyens des municipalités de Saint-Paul, par exemple, Saint-Pierre, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée, qui regardent Joliette avec son système, son système d'Hydro-Joliette, et qui se disent « Ouais, ben on aimerait ça nous aussi être reliés à ce système-là. »
Ben oui, puis il y a déjà eu, je vais vous donner l'exemple de Patrick Morin, qui est juste de l'autre côté de la limite de Joliette, qui est à Saint-Paul, qui est un client des Dos Joliette. Donc, il y a aussi des possibilités, notamment là au niveau industriel, de faire appel à Hydro Joliette dans certains cas là, bien précis. Donc, c'est un beau rêve. Je pense qu'il faut continuer à travailler fort là-dessus. Puis plus qu'on est unis, plus qu'on fusionne nos services, je pense que c'est les citoyens qui sont gagnants en bout de ligne.
Et si on parle d'expansion du réseau, Pierre-Luc Bellerose, il sera question aussi certainement d'agrandir le poste de transformation d'Hydro Joliette.
Ben, c'est-à-dire qu'il y a des travaux actuellement aussi là du côté de Sainte-Julienne. Donc ça va nous donner une capacité aussi énergétique, ce qui faisait partie de nos discussions avec Hydro-Québec, parce que nous sommes le distributeur là, de l'énergie d'Hydro-Québec. Donc nous sommes aussi tributaires là, des travaux qui sont en cours du nouveau poste qui s'en vient du côté de Sainte-Julienne. Donc ça va venir aussi répondre à des besoins qui avaient été exprimés au-delà de l'augmentation du territoire comme tel d'Hydro-Joliette, mais de la capacité énergétique aussi de la ville. domicile actuellement. Là.
Et rapidement, en terminant, pour expliquer de la façon que ça fonctionne, c'est que le service d'électricité d'Hydro-Québec arrive par une ligne à haute tension dans un poste de transformation d'Hydro-Québec et Hydro-Québec vous envoie ça, c'est ça?
Ben, c'est ça, c'est l'énergie d'Hydro-Québec, mais par la suite, on prend tout en main, donc le service client, l'entretien du réseau. Donc, c'est vraiment Hydro-Joliette qui gère ça, puis étant donné qu'on a, disons, un volume important, ben on a un tarif préférentiel qui nous permet d'avoir ce service-là, mm-hmm. puis d'engranger des surplus. C'est pour ça qu'on est redistributeur. Avant, on avait une centrale, donc on était distributeur un peu comme Sherbrooke, mais c'est pas impossible que dans le futur aussi, avec les besoins énergétiques de plus en plus importants, qu'on puisse un jour faire un projet comme ça aussi, puis on parle beaucoup des communautés autochtones ou d'avoir des partenariats, mais je pense qu'il faut aussi regarder du côté des villes comme Joliette, des membres de l'association des distributeurs, qui pourraient aussi là, être des parties prenantes là-dedans, puis tout le monde serait gagnant. On a un meilleur entretien, puis des retombées aussi importantes pour les villes et municipalités.
Ben Pierre-Luc Bellerose, on vous souhaite bonne chance dans ces projets d'expansion. Belle initiative. Chapeau la ville de Joliette, parce que le service est impeccable.
Ben merci, je vais transmettre le message aux équipes.
Merci. Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette. Il est 16h26.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La métropolitaine pour Charles de Gaulle, un peu dense dans le secteur du boulevard du Roi René. On reprend de la vitesse, ça devient plus lourd à partir de Marien et ce, jusqu'au boulevard Henri Bourassa, mais rien de bien grave pour le moment. La traversée de la rivière des Prairies est facile, secteur Pantigny, 40 Est, un peu plus nombreux, boulevard industriel. Pour la suite des choses, ça va très bien. La 341 montée de l'Épiphanie entre la 40 et la rivière Assomption, là, c'est passablement lourd en ce moment. Pour le gardeur, accès facile autant par Sherbrooke que par Notre-Dame. La 25 Nord, Laval, c'est dense sur environ 1 km, secteur de la jonction avec la 440. Pour la suite des choses, Île-Saint-Jean, Terrebonne, Mascouche, ça se passe bien. Le pont Sophie-Masson, facile en ce moment. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40, quand même assez facile dans les deux directions. L'actualité dans un instant avec Pierre Jubinville.
Au Québec, ce n'est pas avec une publicité qu'on va sauver le français. Non, c'est avec...
C'est avec moi, Léo, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et vous, en train d'écouter la radio en français. Continuez comme ça, là. Un message de Léo
et du gouvernement du Québec.
Venez célébrer l'arrivée du printemps à l'érablière Jean-Parent de Saint-Ambroise-de-Kildare. Au menu, jambon, bacon, sirop d'érable, tire sur la neige, ainsi que tous ces délicieux accompagnements qui ont fait la réputation de l'érablière Jean-Parent. Et tout cela à volonté. La grande famille de l'érablière Jean-Parent vous souhaite un sucré bon printemps. Réservation 450-753-3146. Pour plus d'informations, jeanparent.com. Apportez votre boisson. L'érablière Jean-Parent est située au 1571 route 343 à Saint-Ambroise-de-Kildare.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Rogue S 2026 à traction intégrale en location 36 mois et profitez de taux aussi bas que 0,4% chez Joliette Nissan.
Hey, tu veux laver tes vitres? Appelle donc G-Vitres. C'est le spécialiste en lavage de vitres. Lavage à pression aussi disponible. G-VIT au 450-559-6928.
Dans la Naudière, on prend le temps de s'arrêter, de respirer, de se sentir libre d'être soi. Ici, les moments vrais comptent. Ils nous ancrent, nous rapprochent et nous font avancer, ensemble, fiers de qui nous sommes et de l'endroit d'où l'on vient. La Naudière nous rassemble, nous ressemble. Osez grand, vivez grand.
L'actualité de ce mercredi 18 mars en manchette. 8e budget Girard. Des entreprises d'ici qui sont inquiètes des négociations avec les Américains. Le taux de la Banque du Canada ne bouge pas. Mais tout d'abord, Pierre Jubainville, nouvelle de dernière heure là, du côté de Dorval.
Oui, Aéroport de Montréal confirme que la capacité d'accueil des vols est actuellement extrêmement réduite. On nous indique que c'est en lien avec un colis sur un avion qui a atterri et qui est sous enquête par la police. Une des deux pistes est actuellement fermée. L'Agence américaine de l'aviation indique que les vols à destination de Montréal-Trudeau sont suspendus en raison d'une menace à la bombe. On ne sait pas de quelle compagnie il s'agit.
On parle du huitième et dernier budget du ministre Éric Girard qui vient d'être déposé.
Oui, on parle d'un budget sobre et sans artifice malgré le contexte international. La situation financière du Québec s'améliore. Le déficit appréhendé sera moins important que prévu, sous les 10 milliards.
Éric Girard a de quoi souffler. Le déficit appréhendé de près de 14 milliards l'an dernier ne se sera pas matérialisé.
Révisé à 9,9 milliards.
Et il sera encore plus bas l'an prochain.
C'est 6,3 milliards de déficit comptable, 0,9 % du PIB.
Mais le contexte international appelle le ministre à la prudence.
Il y a une guerre dont personne n'avait besoin.
Dans ce contexte, Québec limite ses investissements en infrastructures, indique le ministre Benoît Charrette.
Le PQI 2026-2036 n'est pas un feu d'artifice.
Avec une priorité en santé, 5 hôpitaux passeront en mode réalisation, pendant que Maisonneuve-Rosemont avance à petits pas.
À travers un appel à projet pour permettre notamment d'aménager le terrain.
Éric Girard garde tout de même de l'argent pour le logement social, l'itinérance et la santé mentale. Et comme il y aura un nouveau premier ministre le 12 avril prochain, il lui a préparé une petite enveloppe.
Nous avons prévu 250 millions par année de façon explicite.
Donc, Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Québec.
Et on aura l'occasion de revenir sur ce budget du ministre Girard tout à l'heure avec Pierre Paquette.
Vous noterez qu'il n'y a aucun argent pour rénover le CHDL, qui se place en septième position
du côté de Saint-Charles-Borromée,
des hôpitaux les plus vétustes au Québec.
Des entreprises d'ici qui craignent le renouvellement de l'entente de libre-échange.
Oui, Triotech Amusement et Carton Corrugard reçoivent donc de l'argent, 500 000 et 400 000, de Développement économique Canada, afin d'acquérir de nouveaux équipements de production. L'objectif est de maintenir leur compétitivité dans le contexte de la guerre commerciale avec les États-Unis. On écoute François Morin.
Leader dans le secteur des attractions dites immersives et multisensorielles, Triotech Amusement compte pour principal client les parcs d'amusement régionaux des États-Unis. Le coup de pouce de Développement économique Canada lui permet d'acquérir de nouveaux équipements, lui permettant de réduire les coûts. Jusqu'à maintenant, l'entreprise n'est pas impactée par les tarifs imposés par l'administration Trump. Le vice-président finance, Luc Gagnon.
On attend avec beaucoup d'appréhension le poste à CEUM, parce que nous, ça pourrait avoir un impact majeur si on se retrouve avec des tarifs de 10, 15 ou 25 % puisque ultimement, le client va payer plus cher et la compétition est mondiale.
Puis Carton Corrugard produit des coins de carton ondulés destinés à l'emballage de meubles et de portes et fenêtres. Le produit est unique en ce sens qu'il remplace le styromousse. Il est moins coûteux pour les clients de l'entreprise qui, eux, subissent les effets des tarifs. La propriétaire Marie-Hélène Hotte.
Entre autres, au niveau de l'armoire de cuisine, les impacts sont majeurs. Ça a été très long avant de venir mettre en place, au niveau administratif, entre autres, des nouvelles façons de faire, des nouvelles structures de prix pour venir vendre le produit aux États-Unis.
François Morin, CFNJ Nouvelles.
Oui, puis dans deux petites minutes, on vous présente cet entretien qu'a réalisé François avec Marie-Hélène Hotte et Luc Gagnon. Maintenant, le taux de la Banque du Canada, Pierre, reste inchangé.
Oui, à 2,25 %. La banque dit toutefois que le conflit au Moyen-Orient provoque beaucoup d'incertitudes pour l'économie et que la situation doit être surveillée de près. Philippe Bonneville.
La Banque du Canada affirme que l'économie canadienne performe moins bien que prévu et que la croissance à court terme sera plus faible également. À ça, il faut ajouter l'incertitude et les risques pour notre économie liés à la guerre au Moyen-Orient, un conflit qui pourrait augmenter l'inflation. Tiff McLem est le gouverneur de la banque.
La guerre en Iran vient ajouter une nouvelle couche d'incertitude.
Donc, on ne bouge pas et le taux directeur demeure à 2,25 %, mais la banque interviendra si nécessaire.
On reste prêt à réagir si les perspectives changent.
Sébastien McMahon, stratège en chef chez IA Groupe Financier, croit de son côté que le taux directeur va demeurer inchangé plusieurs mois.
Notre scénario de base, c'est que la Banque du Canada ne bouge pas son taux directeur de l'année. Probablement qu'elle va pouvoir rester sur les lignes de côté.
Philippe Bonneville, pour Cogeco Nouvelles.
Et depuis le début de la semaine, à tous les jours, Pierre Jubainville, on parle de du prix de l'essence dans le bulletin d'information. C'est le cas encore aujourd'hui.
Et vous ne serez pas surpris, il demeure très élevé. Les dernières données de la Régie de l'énergie parlent d'un prix moyen de 1,79 $ dans la Nautière. C'est un cent de plus que la moyenne d'hier.
Et finalement, Don Cherry qui fait encore jaser.
Oui, le PQ trouve insultant que certains Canadiens veuillent accorder l'Ordre du Canada au controversé commentateur de hockey. On le sait, Cherry parlait souvent de propos disgracieux à l'endroit des francophones. Ouais. C'est un personnage coloré. Et le chef du Parti conservateur, Poilievre, appuie également...
Pierre te dit le chef du vieux Parti conservateur.
Non, je pense que c'est plus le nouveau. Oui. Qui appuie Don Cherry. Le député péquiste Pascal Paradis a eu ses commentaires ce matin.
Peut-être qu'il y a des gens qui l'aiment beaucoup ailleurs au Canada, mais c'est pas un personnage qui s'est distingué par ses commentaires élogieux envers notamment les sportifs québécois. En fait, il s'est distingué par ses commentaires souvent méprisants envers les Québécois, mais envers aussi les hockeyeurs européens à l'époque. Qu'on se pose cette question-là, c'est insultant, puis ça démontre comment ça fonctionne le Canada.
Opinion personnelle, on s'entend pour dire que Don Cherry, c'est un raciste. Il est 16h36,
opinion
merci Pierre.
Opinion personnelle, je souris.
16h36, merci Pierre.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel. CFNG. Lanaudière PM. Économie.
Eh oui, on en parlait un petit peu dans le bulletin d'information avec Pierre Jubinville tout à l'heure. Il y a deux entreprises de Joliette, Triotech Amusement et Carton Corrugard, qui reçoivent respectivement des contributions remboursables de 500 000 et 400 000 $ de Développement économique Canada pour acquérir de nouveaux équipements de production. L'objectif, ben, c'est de maintenir leur compétitivité face à la concurrence américaine. Et François Morin a rencontré le propriétaire de Carton Corrugard, la propriétaire, plutôt Marie-Hélène Hott, et le vice-président finance de Triotech, Luc Gagnon.
Alors, Mme Hott, votre entreprise reçoit aujourd'hui quand même un coup de pouce substantiel de la part de Développement économique Canada, parce que vous avez quand même un produit là, assez unique.
Vraiment, c'est un produit de niche, très peu de compétition. Dans certains cas, il y a des comparables, mais dans d'autres, c'est tout à fait unique. Puis un des éléments, en fait, là, qui se distingue, c'est qu'on a fait, on est les seuls à produire en continu, dans le fond, des produits qui sont adhésifs, entre autres. Donc, au niveau de la porte et fenêtre, là, c'est une avenue super intéressante. On est allé un petit peu au-devant du besoin là, en créant ces produits-là. Donc, on a développé avec des entreprises québécoises qui cherchaient des solutions innovantes pour venir adapter le produit à des machines qui sont plus automatisées au niveau de l'emballage et on cherchait une façon de ne pas venir double fixer les emballages. Donc, les emballages qui sont auto-adhésifs sont venus un petit peu changer le, un peu comme un game changer au niveau de l'emballage. C'était un gros plus.
Pour les gens qui nous écoutent, là, on va spécifier, évidemment, j'aurais peut-être dû vous poser la question au départ. Quel est le produit en question?
C'est des coins de carton. Coins de carton ondulés. En fait, c'est des produits qui sont faits pour le transport, protéger dans le transport. On protège des produits comme la rampe d'aluminium, les portes et fenêtres, des meubles, tout ce qui est armoire de cuisine, entre autres. Donc, il y a différents marchés. On vend partout au Canada. Puis, on travaille avec d'autres usines. Fait que ce sont vraiment des usines qui sont manufacturières également.
Dans le contexte où on a parlé beaucoup des tarifs imposés par le gouvernement américain, puis également dans un contexte où on priorise la défense, votre entreprise se situe où à ce niveau-là?
Nous, je dirais que ce sont nos clients qui sont principalement impactés, là. Donc, entre autres, au niveau de l'armoire de cuisine, les impacts sont majeurs. Pour les entreprises, en fait, là, ça crée ça a été très long avant de venir mettre en place au niveau administratif, entre autres, des nouvelles façons de faire, des nouvelles structures de prix pour venir vendre le produit aux États-Unis. Donc, on a des clients vraiment qui ont eu des impacts drastiques dans la dernière année. Ça a un impact, évidemment, sur notre entreprise. Mais il reste qu'on voit à quel point que le marché québécois il est inventif et qu'ils sont capables, dans le fond, de se retourner. Fait que nous, on travaille, on parle avec des entrepreneurs qui sont affectés. Puis je dirais que les gens sont sur la défensive, mais le moral est quand même bon. Là, moi, je trouve ça beau de voir à quel point il y a de la résilience. C'est concret, là, ce qui est mis en place. Donc, c'est pas des gens qui parlent, c'est des gens qui agissent.
Ce que je comprends, l'aide gouvernementale arrive un petit peu après où c'est déjà été versé, mais le projet a été réalisé.
Chez nous, le projet a été réalisé. Dans le fond, notre ligne de production, elle est vraiment pleinement efficace depuis novembre 2024. Alors, effectivement, c'est une annonce pour montrer, en fait, le résultat. Donc, chez nous, c'est vraiment concrètement en action. On est actuellement à deux lignes de production qui sont pleinement opérationnelles. On a beaucoup augmenté, amélioré notre productivité aussi. Donc, le taux de rejet a descendu. Le temps de mise en marche, vraiment une incidence importante, là. Donc, puis ça nous permet aussi, avec deux lignes, de mieux venir cibler quel produit va être produit sur quelle ligne. Alors, encore là, au niveau de la productivité, là, ça a un impact qui est significatif.
Triotech a déjà fait ses preuves. On a des clients partout ou à peu près à l'étranger. Alors, l'investissement d'aujourd'hui est quand même stratégique.
Tout à fait, oui.
Dans quel sens?
Ah, donc, nous, c'est pour l'investissement d'une machine, donc pour avoir une plus belle intégration verticale, parce que nos compétiteurs, là, ils sont mondiaux, donc principalement aussi asiatiques. Donc, nous, ça nous permet de créer plus de choses dans notre usine au lieu d'importer des choses.
On parle beaucoup de compétitivité, là, on vient de se le mentionner, et dans un contexte où, justement, là, nos voisins américains sont encore très difficile là, à gérer ou à comprendre, et dans un contexte également où le gouvernement du Canada s'enligne de plus en plus pour des projets en défense, votre entreprise se situe où là-dedans?
Nous, le marché des États-Unis est un très gros client pour nous. Donc, ça a eu un impact quand même assez considérable l'année passée. Il y a des clients qui ont carrément cancellé des commandes ou repoussé des commandes. Donc, c'est pour ça qu'on doit tout faire pour baisser le coût de nos machines. Parce que on n'est jamais à l'abri de tarifs qui pourront venir ou ne pas venir. Donc, le coût de fabrication de nos produits est excessivement important.
Bon, parce que justement, les tarifs sont maintenus. Il y aura bientôt des négociations pour le renouvellement de l'accord de libre-échange.
Nous, on est chanceux. On est sous la CIUM, donc on n'a pas de tarifs. Donc, tout ce qu'on exporte aux États-Unis présentement sont libres de tarifs. Par contre, on attend avec beaucoup d'appréhension le poste à CIUM, parce que nous, ça pourrait avoir un impact majeur si on se retrouve avec des tarifs de 10, 15 ou 25 %, puis ultimement, le client va payer plus cher et la compétition est mondiale. Donc, ils vont regarder toutes les options qu'ils ont, puis à la fin de la journée, c'est le coût qui va faire la différence.
Vous avez profité de l'occasion aujourd'hui pour dévoiler là, une nouvelle attraction. Là, c'est quand même assez particulier. Là.
Oui, c'est le Typhoon Shockwave. Donc, c'est la quatrième version de ce produit-là. C'est une transformation assez importante comparativement à la troisième édition. Et en grande primeur, on l'a sorti à Las Vegas présentement au show, parce que le président avec l'équipe de vente l'ont annoncé aujourd'hui.
Bon, ben c'était Luc Gagnon et Marie-Hélène Hott qu'on écoutait dans les dernières minutes et que François Morin a rencontré aujourd'hui, représente deux entreprises de Joliette là, qui viennent de recevoir quand même d'importantes contributions de Développement économique Canada. Il est 16h42. On parle du budget Girard dans un instant avec Pierre Paquette.
La Chambre de commerce du Grand Joliette est heureuse d'inviter la population au Salon Rendez-vous commerce présenté par Desjardins du 19 au 22 mars prochain aux Galeries Joliette. Venez magasiner autrement alors que des entrepreneurs en construction, entreprises de services, de santé et beauté, de décoration, de loisirs et plusieurs autres vous attendent dans le cadre de la plus grande foire commerciale de la région. Le Salon Rendez-vous commerce tient à remercier ses précieux partenaires Aspirateur Saint-Charles, Bessette Créateur de confort, Production Méga Animation, Promutuel Assurance Lanaudière, Chico Joliette et CFNJ.
Revivez le spectacle unique du 40e de CFNJ. Vous avez manqué la soirée grandiose du 17 janvier? Ben, manquez pas votre chance de réentendre tout ça. Le samedi 21 mars dès 15h dans Weekend Trad, revivez en version intégrale cet événement unique. Une quinzaine des plus grands artistes trad de la Naudière réunis sur scène autour de Mathieu Marion, André Brunet, Francis Morin et Pierre-Luc Dupuis. Revivez ce spectacle unique. Je suis fier de CFNG. le samedi 21 mars dès 15h à CFNJ.
Du plaisir, mesdames et messieurs, du plaisir!
Merci à nos partenaires, Joliette Nissan, le CA Traiteur, Son X Plus Joliette, le Centre culturel Desjardins, Grand Tri Pizzeria Joliette, la Pépinière Montcalm de Saint-Jacques et les Filles du Nord.
Excusez-la!
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant du Kicks Play S 2025, le véhicule le plus abordable au Québec, à partir de seulement 22 774 plus taxes au comptant, incluant les frais de transport et de préparation. Chez Joliette Nissan.
Chez Fromagerie Victoria, nos déjeuners sont débordants en plus d'être à petit prix. Servis jusqu'à 11h en semaine et jusqu'à 13h les week-ends. Ça commence bien la journée. Fromagerie Victoria, 791 rue Gadoury à Berthierville.
Au concert du dimanche à CFNJ, Gilles Valiquette.
Je suis cool, je suis cool, je suis cool.
Le concert du dimanche, dimanche matin 7h à CFNJ.
À CFNJ. Voici le commentaire de Pierre Paquette.
Salut, bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
C'est le 8e et dernier budget du ministre Éric Girard qui vient tout juste d'être déposé à Québec. Et chose étonnante, en période préélectorale, il n'y aura pas de bonbons.
Non, il n'y aura pas de bonbons, mais il va y avoir un déficit quand même assez important, là, même si c'est moins important que ce qu'on avait prévu. Il est quand même de 8 milliards 600 millions de dollars pour le Québec. C'est quand même un gros poids à supporter, malgré qu'il faut dire qu'il est moins important en termes de PIB que celui du fédéral. Au fédéral, le déficit représente 2,5% du PIB, puis au Québec, c'est 1,3. Mais ça demeure quand même une situation où c'est pas le moment de donner des bonbons si on veut donner l'impression d'être sérieux. Alors, c'est pour ça que on retrouve pas énormément de mesures de dépenses positives, malgré qu'il y en a. Je pense qu'il faut le signaler, là. Les 5000 places en garderie subventionnées de plus, c'est quand même quelque chose d'intéressant. L'aide au secteur forestier, c'est le seul secteur qui est aidé dans le contexte de la lutte commerciale avec les États-Unis. Les médias reçoivent aussi un peu d'argent. Même les candidats à la chefferie du parti, oui, très peu. Mais même les candidats à la chefferie de la CAQ reçoivent 250 millions par année pour quelques années si ça se continue.
Attends un petit peu. Là, c'est parce que là, ce que tu viens de me dire, c'est que le ministre Girard veut laisser un coussin au prochain chef du gouvernement caquiste qui s'appelle soit Bernard Drinville ou Christine Fréchette. C'est ça?
Exactement. Il y a dans le budget, c'est comptabilisé, c'est dans le total, mais il n'y a pas aucun détail sur l'utilisation de ce 250 millions-là, qui est d'ailleurs prolongé dans le temps. Là, c'est 250 millions par année pour plusieurs années, là, comme si éventuellement Mme Fréchette ou M. Drinville deviendraient premier ministre et seraient réélus en octobre prochain. Mais donc, on a gardé un 250 millions. Il y a aussi la provision pour éventualité, qui est très importante, mais ça, c'est normal. On fait ça dans tous les budgets. C'est Pauline Marois qui avait initié ça. Mais en même temps, ça donne une marge de manœuvre aussi pour aller chercher de l'argent pour des projets particuliers si on n'en a pas besoin pour d'autres circonstances comme la pandémie ou une crise du verglas, etc. Alors, il y a quand même une petite marge de manœuvre pour les successeurs de M. Legault. Mais il faut dire aussi que cette marge de manœuvre-là, les partis d'opposition vont pouvoir l'utiliser dans leur cadre budgétaire lors de l'élection d'octobre prochain.
Mais tu penses pas, Pierre, que dans 3 semaines, soit Christine Fréchette ou soit encore Bernard Drinville pourrait carrément déchirer ce budget-là puis dire on repart à zéro, là?
Ah ben c'est évident, mais je pense qu'ils vont sûrement vouloir peut-être modifier à la marge, mais faire un exercice de repréparer un budget avec le ministère des Finances, ce serait quelque chose qui serait impossible dans les délais imparti. Donc, il va peut-être y avoir à la marge des décisions qui vont être différentes. Par exemple, le gros du budget, moi, selon moi, c'est la croissance des dépenses. Pensez qu'on va être capable d'avoir une croissance moyenne des dépenses de 2% quand l'inflation est à 2%, ça veut dire qu'on est juste capable de financer les coûts de système, les augmentations de salaire ou les dépenses d'entretien. Ça, j'y crois absolument pas. Alors, peut-être que de ce côté-là, il y aura une décision à prendre pour la future première ministre. Je pense qu'on n'a pas besoin de se cacher que Mme Fréchette va sûrement devenir la prochaine première ministre. Alors, c'est quand même une situation qui est pas facile pour le Québec, pour la CAQ, mais pas facile non plus pour les partis d'opposition.
Souvenons-nous du coût du 500 $ juste avant l'élection de 2022. Ça avait aidé la CAQ à remporter cette élection avec énormément de sièges.
Oui, bien là, justement, il faut se rappeler de ça. C'est qu'au départ, quand la CAQ a pris le pouvoir en 2018, il y avait un surplus de 2,6 milliards de dollars. Alors ça, évidemment, c'était les fruits de l'austérité de M. Letao. Mais quand même, on est passé d'un surplus à des déficits chroniques. Bon, c'est sûr qu'il y a eu la pandémie, mais ça fait déjà quelques années que la pandémie est maintenant terminée. Oui, ça a été les largesses de M. Legault, du gouvernement caquiste en période électorale. Puis même l'année dernière, pas l'année dernière, mais en 2023, il y a eu encore des baisses d'impôts. Ces baisses d'impôts-là, ça se répercute sur les difficultés financières du Québec actuellement, c'est sûr. Et on promet un retour à l'équilibre pour 2029-2030, j'ai beaucoup de misère à croire que ça va pouvoir se faire.
On entend toujours ça à chaque budget, retour à l'équilibre, retour à l'équilibre. Et c'est toujours poussé au calendrier grec, là.
Ben, parce que ça demande des choix qui sont difficiles, là. Comme je te mentionnais, là, les dépenses de 2%, on parle d'une augmentation de 4% en santé. Bon, c'est bien, mais en éducation, on parle de 2, quelque chose. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun investissement nouveau en éducation. En santé, ça va être probablement un petit peu plus, mais combien les médecins spécialistes vont aller chercher sur ce pourcentage d'augmentation des dépenses? Sûrement une bonne partie. Alors, donc, c'est une situation facile. Mais encore une fois, tu as raison de le signaler, c'est les cadeaux que la CAQ a fait au cours des dernières années n'ont absolument pas aidé à l'assainissement des finances publiques ou avoir des finances publiques saines.
Justement, où on a un gros déficit actuellement, c'est en santé et c'est également en éducation. Les écoles sont à renouveler, sont à rénover et on doit en construire de nouvelles puisque, évidemment, le Québec accueille beaucoup de nouveaux arrivants. Qui dit nouveaux arrivants, ben dit que ça prend des classes de plus. Les hôpitaux qui sont vétustes comme ça se peut pas, il y aura pas un cent d'ailleurs pour le centre hospitalier régional de la Naudière à Saint-Charles-Borromée.
Mm-hmm. On présente un budget, tout a l'air de se tenir, mais quand tu vas dans les détails, tu vois qu'il y a des problèmes importants. Il y a quand même des montants supplémentaires pour les dépenses d'infrastructure, là, un 3 milliards de dollars sur 5 ans, mais ça, c'est relativement peu par rapport aux besoins, effectivement. Mais je pense que là, on a vraiment un problème de croissance économique là, à relever au cours des prochaines années. Puis évidemment, la conjoncture n'est pas très, très favorable avec la guerre en Irak, la guerre en Ukraine, les problèmes liés au coût de la vie. Alors, le prochain gouvernement, peu importe le parti qui va être au pouvoir, va avoir beaucoup de travail sur la planche.
C'est pas vraiment un budget à saveur électorale. Pierre, est-ce que tu penses qu'Éric Girard a lancé la serviette là, au nom de la CAQ en disant ben, on y va avec un budget comme ça, puis au diable?
Ben, moi, je pense qu'ils ont fait tellement de promesses qu'ils n'ont pas tenues que là, ils préféraient pas faire trop de promesses pour pas avoir à les rompre avant de la prochaine élection. Alors, il n'y avait pas tellement le choix. Ça prenait un budget, je dirais, drabe. Lui, il dit sobre, mais il n'y a absolument pas grand-chose là-dedans. Comme j'ai mentionné, à part l'aide au secteur forestier, puis les places en garderie. Par exemple, sur le logement, qui est une situation criante partout, et puis qui est à l'origine en grande partie des problèmes d'itinérance, il n'y a absolument rien. Fait que c'est pas avec un budget comme ça qu'on va être capable de relancer le Québec, ça c'est sûr, mais en même temps, il faut être assez réaliste pour penser que M. Girard fait son dernier tour de piste à titre de ministre des Finances.
Merci Pierre Paquette, on va suivre les commentaires parce que c'est certain que l'opposition là, va commenter et puis tous les partis d'opposition vont avoir des réactions. Merci Pierre, bonne soirée.
Merci, bye.
Je tiens à saluer et remercier nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui, Régente Turgeon, Pierre Jubinville, François Morin et Pierre Paquette que vous venez d'entendre, ici Claude Fournel. Passez une excellente soirée. Nicolas Bellemare sera là dans les prochaines minutes pour vous présenter le 5 à 7 trad. La vie dans la Naudière avec Hugo Valiquette dans un tout petit moment. Nous, on sera là demain à 16h pour une autre édition de La Naudière PM. Salut!